On va aborder un sujet important, le ressuscité. Nous prenons... Oui. Oui, 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 le ressuscité. Le ressuscité est là, il est bien vivant, et il a une fonction extrêmement importante à notre égard. Si nous croyons qu'il est là, notre vie n'est plus la même. Si nous acceptons qu'il intervienne dans notre vie et que nous lui parlons, d'une manière ou l'autre, il va nous répondre. Il est l'intervenant premier, principal et le plus vivant. Jésus est plus vivant que ma femme, que mes enfants, que mes amis. C'est le vivant. C'est l'éternel. C'est le ressuscité. Si Jésus est vivant dans ma vie, je dois faire une chose. Je dois mourir à ma incrédulité. Je dois mourir à mes mauvaises intelligences. Je dois mourir à mes liens, encore peut-être diaboliques, mes liens avec des péchés, l'imaginaire, toutes sortes de choses où j'ai trempé avant. Je dois mourir à tout ça. Il faut laisser tout ça de côté. Pourquoi ? Parce que Jésus est le vivant, le prince de la vie. C'est lui qui est là avec moi. C'est lui. Ce monsieur aux cheveux blancs était avec le Christ sur le trottoir. Quand vous n'en avez que 10 à donner sur une journée, vous n'en avez pas 300 à donner. Vous devez réfléchir et vous le donnez en demandant à Christ, mais c'est auquel que je vais le donner. Ok ? Il y a quelque chose qui doit être pesé dans les gestes, dans les événements. Quand on sait qu'on a quelque chose, on a des dons de la part de Dieu, il faut peser l'importance de la distribution, de la fonction d'ambassadeur qu'on a. Il faut peser la fonction. Un ambassadeur, c'est quelqu'un qui a vraiment le tact, qui mesure les choses par rapport à tout ce qui l'entoure. C'est les qualités d'un bon ambassadeur. Et pour nous, c'est la même chose. Quand quelqu'un est persuadé que le Christ est là, non pas parce qu'il est meilleur que les autres, mais parce qu'il a la conviction intime qu'il est là, il peut demander des choses évidentes pour lui, que pour d'autres chrétiens, elles ne sont pas du tout évidentes. D'autres chrétiens n'ont pas ces évidences-là. C'est assez renversant, et je prends juste l'exemple dans les Actes des Apôtres, au chapitre 2. Et puis je laisse passer, prendre la parole à Marie-Jeanne. Faites bien attention, l'évidence, quand, par exemple, il y a une maladie pour Benjamin du pancréas, hein, et c'est très dangereux, cette maladie. L'évidence, c'est que Christ est là, à côté de moi. Est-ce que je lui parle réellement comme il l'a ? Ou est-ce que j'ai quand même quelque chose ? Il y a quelque chose en moi, j'entretiens du brouillard entre lui et moi. Est-ce que j'entretiens une foi qui est sabotée ? Pas par le diable, hein ? Il faut pas tout mettre sur le dos du diable, par moi-même. J'ai des lunettes, si elles sont crasseuses au matin. En plus, je vais dehors, hein ? Il fait chaud ici, je vais dehors, paf, de la buée. Plus la crasse, est-ce que je vois quelque chose ? Non. Ben, il y a des fois, notre foi, elle est comme ça. Il faudrait laver nos lunettes et les nettoyer. C'est la proximité et la certitude du ressuscité. Quand j'ai été chez le docteur, pour l'épaule, ici, bon, radiographie, échographie, et puis après scanner, oh là là, la piqûre là-dedans, à bondir au plafond. Hein? J'ai dit, vous ne me repiquerez pas deux fois là, je me sauve avant. Hein? Alors, l'endroit le plus mal. Quand on regarde et qu'il me montre avec sa tête, mais regardez, il y a des trous là, c'est déchiré là et tout. Oui, j'ai déjà opéré, mais il me faudra quelqu'un de plus qualifié avec moi pour opérer. Puis, il est adventiste. Alors, il me dit, oui, on peut compter sur la résurrection, il me dit. On peut compter sur la résurrection. Ça veut dire que lui, il ne compte pas sur lui-même, quoi. Hein? C'est clair. Alors, il me dit, je vous appellerai vers le 7. Mais, avec ma femme, je dis, mais s'il ne nous appelle pas, vers le 10, s'il ne nous appelle pas, peut-être que le Seigneur l'empêche de nous appeler pour l'opération. Ça faisait 3 mois et demi que j'avais mal à tout casser. Et qu'est-ce qui se passe ? On a prié. Si pour le 15, il n'a pas téléphoné, pas d'opération. On remet ça au Seigneur, c'est lui qui s'en chargera. Bon, c'est clair qu'il y a, il y a Jackie qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui m'a dit, moi j'ai été opéré, j'ai toujours mal. D'autres me l'ont dit. Donc pratiquement, l'opération n'est pas une solution miracle. Et ce qui s'est passé, c'est que plein de choses que je ne pouvais plus faire sont revenues. Pourquoi ? Parce que quand on a vraiment mal, quand on est tout seul, il faut parler au Seigneur. Il faut lui dire où on est et compter sur lui. Et si on ne le fait pas, on s'enfonce dans un truc crasseux. On s'embourbe jusqu'au-dessus de la tête, on ne voit plus le Seigneur. On est dans la confusion. C'est mis clairement dans Hébreux, dans l'épître de Pierre, que celui qui croit en Christ n'est point confus. Méfiez-vous, la confusion ne vient pas du diable. Elle vient d'un manque de foi, d'une façon de croire qui n'est pas juste. La foi en Christ n'est pas suivie de confusion. Ok ? Acte 2. Je ne dis pas qu'il faut être parfait pour avoir une foi pareille. Sûrement pas, j'ai jamais dit ça. Il faut pas croire ça. C'est au chapitre 3. Alors, les Actes des Apôtres, chapitre 3. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière, c'était à 9e heure, donc 3 heures de l'après-midi. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Dans l'esprit de tous ceux qui rentrent là, s'il est comme ça, c'est parce que ses parents ont péché, ses grands-parents, etc. etc. Ok ? Donc, déjà ce gars-là a la honte. Il a déjà un jugement sur lui. C'était comme l'aveugle né, c'est parce que ses parents ont péché. Alors, pratiquement, en même temps, il a faim. Il faut qu'il soit là pour manger, pour avoir quelque chose. Et peut-être que d'autres profitent aussi de ce qu'ils ramassent au temple. Mais ce qu'il y a, c'est parce que beaucoup de gens arrivent et ils ont de l'or et de l'argent pour mettre dans les caisses, dans les troncs du temple. Sauf deux hommes, Pierre et Jean, qui n'offrent plus d'or et d'argent. Parce qu'il n'y a plus besoin d'offrir d'holocauste, ni d'or ni d'argent, puisque Christ est mort à la croix, tout est payé pour le salut. Tout est payé, ils ne doivent plus rien, eux, à Dieu. Les autres sont toujours en dette. Et ils rentrent libres. Et quand ils arrivent tout près de cet homme, ils rentrent, et entre deux, il y a Christ. Ils l'ont vu plusieurs fois, visiblement, et puis à d'autres moments, passé à travers le mur, ils savaient qu'il était là. Qu'il soit visible ou pas, il est là. Ils en ont la pleine conviction. Donc Christ, ils sont à trois. Continuons. Verset 3. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Donc, il est vraiment dans la confusion. Il a les lunettes crasseuses, hein. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, évidemment, il n'y a plus besoin de tout ça, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever, au même instant, ses pieds, ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout, il se mit à marcher, il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Quand ils arrivent tout près du bonhomme, ils l'ont déjà vu plusieurs fois, trois fois par jour et plusieurs jours, ils le connaissent. Et déjà à l'avance, ils le voient. Qu'est-ce qui se passe dans le cœur de deux hommes qui ont été touchés par la grâce ? Ils prient et ils consultent leur maître, ils consultent leur Seigneur. Seigneur, est-ce que tu vas intervenir aujourd'hui pour lui ? Et ils demandent. Rappelez-vous, quand Jésus a guéri le paralytique, le premier miracle dans la maison de Pierre, c'était à cause de la foi des quatre bonhommes qui avaient descendu le paralytique à travers le toit. Voyant leur foi, ils guérissent le paralytique. Alors, ils n'ont jamais oublié ça. C'est Pierre et Jean, ils étaient là, et tout le monde. Mais avec la puissance du Saint-Esprit maintenant, ils sont complètement convaincus que Christ est avec eux. Ils sont là où vous êtes réunis à deux en mon nom, je suis au milieu de vous, deux ou trois. C'est une évidence, ce n'est pas une théorie. Ce n'est pas un slogan politique ou catholique ou protestant. Ça n'a rien à voir. C'est une réalité plus réelle que le mur ici. Alors, ce qu'il y a, ils vont s'adresser dans leur cœur à Jésus. Et puis, à un moment donné, ils sont en paix tous les deux. Ils se regardent et puis ils disent, ce que nous avons, nous te le donnons. Parce qu'ils sont en communauté avec Jésus-Christ. Ils sont en communion avec Jésus-Christ. La première réalité du chrétien, c'est d'être en communion directe avec Jésus-Christ. Prenons Marc. Et puis j'en ai fini. Marc. C'est des textes de base. Marc, chapitre 3, verset 13. C'est des enseignements de base. Il y a beaucoup plus à aller plus loin dans la présence de Christ, dans la relation à Christ et tout ça. Il faut prendre du temps, les amis, dans l'étude biblique. Hein. Et ça ne se fera pas, on ne reçoit pas des enseignements profonds dans la Bible en passant en survol sur la Bible, hein, en ayant peu de temps. La profondeur, c'est Christ qui la donne. Hein. Alors, Marc 3, verset 13. Il monta ensuite sur la montagne, c'est Jésus. Il appela ceux qu'il voulut, donc c'est Jésus qui choisit, et ils vinrent auprès de lui. Ils répondent. Il en établit 12 pour les avoir avec lui. Donc il les met debout, en établir, c'est mettre debout. Parce qu'avant, ils étaient morts. Il les met debout, ils sont vivants, spirituels. Et les avoir avec lui, koinonia, c'est union. La première tâche du Christ est venue. Il est venu pour nous mettre en union à lui. Il nous appelle. Si on répond, il ne rejette pas. En union à lui. Mais c'est une union vivante, hein. C'est une union vivante. C'est ça qui compte. Ben, une union en idée, etc. Alors, après, quand il les a bien en union avec lui, il peut leur dire, vous allez prêcher, nous envoyer prêcher. Kerutso, c'est-à-dire annoncer sa mort et sa résurrection pour les péchés des hommes, pour leur salut. Et ensuite, le pouvoir de chasser les démons. Ben oui, il faut combattre l'ennemi. Il est partout, il a la puissance sur le monde. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. Ce brave homme aux cheveux blancs était ce genre de chrétien. Il avait 10 graines, il devait choisir ou poser les 10 graines tous les jours. Et sans doute qu'il priait, sans doute qu'il vivait avec son Seigneur, il aurait pu dire, bon, j'en ai pour 5 minutes, il passe tellement non, et puis hop, je vais voir les copains, je rentre, j'ai autre chose à faire à la maison. Peut-être qu'il l'était, il sortait 1 heure au matin, il n'en donnait qu'une. Puis qu'à midi, il en ressortait, il se promenait, il en donnait 2. Peut-être qu'à 4 heures, il en sortait 3. Peut-être qu'à 8 heures, il en sortait... Et que les 10, c'était la dernière à minuit. C'est ça que je veux dire. Il était en union avec Christ. C'était pas charnel. C'est ça qui a produit les résultats que je vous ai dit. C'est ça qui a produit, qu'il y a eu des prédicateurs, pif, paf, boum, des taches d'huile énormes, parce que c'était dirigé par la foi en Christ. Et par Christ, bien sûr. Il n'y a pas de foi en Christ sans le Christ. Hein. Ce n'est pas notre foi qui compte. C'est le Christ dans notre foi qui compte. Voilà. Donc voilà ce que je voulais dire. Maintenant, c'est à Marie-Jeanne. Il y aura la Sainte Cène encore dans 15 jours, dimanche en 15, à 10h moins 10, là à côté, pour ceux qui viennent, qui sont en ordre de baptême, de mariage, etc., tout le reste, vous venez à Sainte Cène, on va faire ça, parce qu'il y en a toujours qui seront absents, hein, soit parce que la femme, elle doit faire ci, l'homme doit faire ça, il y a toujours des raisons. Donc, si on est 4, 5, 6 chaque fois, tous les 15 jours, il peut arriver qu'on soit 10 un coup, mais en tout cas, la Sainte Cène. Pourquoi ? Parce que la préparation des baptêmes et la proximité du mariage de nos amis ici, tout ça, c'est des choses qui se règlent dans l'Église cette année. Et moi, j'ai la paix pour faire la Sainte Cène, j'ai la paix, autrement, j'avais trop de crainte de Dieu. Trop de crainte. Pour moi-même et pour vous. Et voilà. À toi, Marie-Jeanne.
Merci. Bonjour à tous ceux que je n'ai pas vus. Et je voudrais vous dire toutes toute mon affection en Jésus. Voilà, je suis très très heureuse d'être avec vous. Je vous connais pas beaucoup, mais en tout cas j'ai la joie de partager un moment avec vous. Voilà.
Vous parlez assez fort. Oui. Hein.
Oui. Alors je voudrais donner mon témoignage. Voilà. Lorsque je considère ma vie au jour d'aujourd'hui, je ne peux que rendre grâce à Dieu qui veilla sur moi continuellement et qui manifesta au quotidien un amour qui dépasse l'entendement, et ce, dès ma conception. Oui, c'est l'Éternel qui me garda lors de la grossesse de ma maman, alors que pourtant elle eut 54 crises d'épilepsie durant le temps de sa grossesse. C'est lui qui permit à mon papa de travailler tous les jours pour m'éduquer, bien qu'il eût 68 ans lorsque je suis née, et le Seigneur lui en donna la force jusqu'à ses 83 ans, le temps pour moi d'atteindre presque la majorité. Oui, ce Dieu d'amour, par grâce, me permit de recevoir beaucoup d'amour de mes parents, ce qui pour moi eut bien plus de valeur que d'avoir un papa jeune et une maman en pleine santé. Tout au long de mon enfance, je reçus une bonne éducation, de la tendresse, le témoignage du courage au travers de mon papa, la générosité du côté de ma maman et l'humilité de mon papa qui a dû accepter un travail bien inférieur à ce qu'il aurait pu prétendre de par les diplômes qu'il obtint par le passé. Si je parle d'amour maternel et paternel, je dois reconnaître que l'amour de Dieu fut pourtant sans commune mesure avec nous ici-bas. Je voudrais vous lire le passage d'Ésaïe 53 qui correspond à cet amour de Dieu. « Qui eut cru ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est livré devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui qu'on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche, il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec les riches, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Oui, ce Dieu d'amour, malgré mes transgressions envers lui, répondit favorablement à toutes mes prières lors de situations difficiles durant ma jeunesse. J'avais entendu parler de lui à l'église car à partir de 10 ans, ma maman m'amena presque tous les dimanches à l'église du Tabernacle. Cette relation que j'eus envers Dieu par la prière me toucha profondément car je compris peu à peu que tout ce que j'entendais le dimanche et ce que la Bible disait était réellement vrai. C'est à l'âge de 17 ans que je décidais au fond de mon cœur de lui demander pardon pour toute la désobéissance et les péchés que j'avais commis envers lui, et je l'accepta comme sauveur. je dois bien avouer que durant des années plus tard, ma marche avec lui ne fut pas ce qu'elle aurait dû être et que la plupart du temps, je dus subir les conséquences de mes propres fautes. Dieu, en effet, n'est pas celui qui punit à chacun de nos faux pas, mais nous nous punissions bien souvent nous-mêmes. Depuis 18 ans, maintenant, je marche avec le Seigneur, à qui je dois ma croissance spirituelle, la transformation de mon cœur et de mes pensées. Je sais que le Seigneur m'aime tel que je suis, et je sais que c'est aussi le cas pour chacun de vous qui m'écoutez. J'ai appris aussi que le Seigneur permet parfois les difficultés qui sont souvent un cap qui permet de nous apprendre, de nous faire grandir, de nous permettre de réaliser sa grandeur et le bien profond que nous n'aurions jamais pu découvrir autrement. Je souhaite pour chacun de vous d'expérimenter le merveilleux qu'il a pour vous.
Amen.
Amen.
Le Seigneur a guéri notre sœur d'un cancer redoutable. J'étais pas loin de la mort et vous voyez que Dieu est grand.